Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Bonjour et bienvenue au club MediaRH.com, le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi, du management et de la réussite, j'irais même de la découverte. Comme chaque samedi, c'est tellement vrai. Nous sommes ravis de passer cette heure en votre compagnie avec quatre invités, chacun sa spécificité, chacun, et j'ai envie de dire, son discours. Alors il s'agit bien sûr d'emploi avec Denis Bout, cofondateur de qui est dirigeant. Qui va nous parler de Avenir Dirigeant, pardon, qui va nous parler, ça a été fondé il y a 2 ans, eh bien, c'est à la fois une société d'outplacement, mais de son nouveau pack, le Silver Pack, pour anticiper sa retraite, c'est une bonne idée. Il s'agira également d'emploi avec Edouard Alkib dans un autre sens. Lui a une bonne idée, il a comme ambition de permettre aux entreprises de découvrir comment déconnecter les salariés de leur smartphone. Qu'est-ce que c'est dur de se séparer de son téléphone, et surtout quand on est dans la boîte. Dimitri Achikmin, lui, est directeur associé de FWA. C'est une société spécialisée dans le développement de logiciels de gestion. Ça explose. C'est une belle entreprise qui mérite un grand coup de chapeau, un coup de projecteur en tout cas. Ils ont éventuellement des postes à pourvoir. Et puis comme chaque samedi, eh bien avec un invité témoin, vous savez qu'on est là pour défendre les auteurs, la littérature et les libraires. On est ravis de donner un coup de projecteur également sur une nouveauté. Il s'agit d'un écrivain, une femme, Anne Goscinny, qui vient de faire paraître un joli roman chez Grasset, Le sommeil le plus doux. Bonjour Anne.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Parfaitement bien.
C'est gentil d'être venu depuis Nice jusque vers nous. Enfin non, je dis Nice parce que l'histoire de votre roman, Le sommeil le plus doux, c'est un très joli roman. C'est une très belle écriture, très fine et très attachante. Une fois qu'on a ouvert le livre, je m'y attendais pas. On est piégé et on va jusqu'au bout. Alors, c'est une histoire qui démarre à Nice, c'est bien ça. Alors, vous n'avez rien à voir avec l'emploi, vous. Hein.
C'est pas
votre sujet, mais non, on aime bien justement avoir un.
Pour ça, en vous écoutant présenter les invités, je me suis dit, je me suis peut-être trompé de studio, peut-être trompé d'étage. Cet immeuble est très grand, je sais pas.
Non, mais c'est le but de l'opération, c'est d'accord. D'essayer de mélanger les genres.
Hein. Très bien.
Alors vous, Anne Goscinny, c'est une très belle histoire d'une jeune femme qui arrive à Nice, là où elle est née, c'est bien ça?
Ouais,
où elle a grandi, disons.
C'est une femme qui a une cinquantaine d'années, qui part à Nice avec sa fille, et cette femme qui a une cinquantaine d'années est mourante, et elle revient
à Nice.
C'est
marrant parce que vous prenez dans ce sens-là.
Oui, parce que...
Moi, je parle de la narratrice.
Mais la narratrice n'est pas née à Nice.
C'est sa mère qui est née à Nice. Voilà, je vous laisse continuer. Donc voilà. Sa maman est née à Nice, elle vient avec elle et sa grand-mère.
Voilà, et elles vont passer ce dernier réveillon de Noël ensemble et tout se dire. Et Jeanne, la narratrice, qui a 25 ans environ, va rencontrer un homme pendant que sa mère est en train de quitter ce monde-là et va vivre sa première expérience de femme avec cet homme. Et passera le reste de sa vie à rechercher cet homme.
C'est un très joli roman, je le répète. Alors, il y a des pages, j'ai noté d'ailleurs, je les ai annotées ces pages-là. Il y a beaucoup de passages, mais vers la page 103, il y a trois pages magnifiques.
Ah !
Magnifiques !
Bon ?
Non, mais vraiment, magnifiques. On va y revenir, bien sûr, tout à l'heure.
Très bien.
Mais alors, votre parcours à vous, c'est pas votre premier roman ?
Non, c'est mon sixième roman.
Oui.
Alors,
pour elle. Vous vous appelez Anne Goscinny.
Oui.
C'est un rapport avec la bande dessinée, l'auteur de bande dessinée.
Oui, je suis la fille de René et Gilberte Goscinny. Mon père a co-créé avec Albert Uderzo Astérix, a écrit plus de 40 épisodes de Lucky Luke, a co-créé avec Jean-Jacques Sampé le petit Nicolas, avec Jean Tabary Is No Good, a fondé le journal Pilote.
Alors là, vous nous
et...
faites là.
Au milieu de tout ça, a eu le temps de rencontrer une créature de rêve qui était ma mère, qui avait 17 ans de moins que lui. Et ils ont eu le temps, miraculeusement, de faire un enfant extrêmement réussi, qui est devant vous aujourd'hui. Voilà. Et je suis née en mai 68, et mon père m'a déclarée à la mairie, ça ne s'invente pas, la mairie de Boulogne-Billancourt, sous le nom de Anne Barricade Goscinny.
Non, c'est pas vrai.
Et l'employé de mairie lui a refusé ce plaisir. Et je la cherche pour lui envoyer des fleurs, parce que vous voyez sur mon passeport me trimballer toute ma vie Anne Barricade Goscinny. Il était très déçu.
Ah, c'est une belle anecdote que je connaissais pas. Je suis sûr que ça va faire sourire beaucoup
de monde.
Mai 68. En mai 68, faut le faire. Oui, en plein, comme on dit, en plein mai 68. Oui, mai 68 a accouché d'Anne Goscinny.
Voilà, c'est ça. Un pavé dans la mare.
C'est une jolie anecdote. Elle est spontanée en plus. Alors Anne Goscinny, vous avez été influencée, j'imagine, par un père aussi prolixe en matière de création.
Ben, si j'ai été influencée, je ne l'ai pas été dans le bon sens.
En tout cas, pas dans la BD.
J'écris des choses d'une tristesse incroyable et lui a fait rire la planète entière. Alors peut-être un jour, lui et moi, on va se retrouver. Mais c'est vrai que je n'ai pas réussi à franchir le pas de la comédie. Et je pense qu'il est infiniment plus difficile de faire rire que d'émouvoir.
Oui.
Alors... Donc ça, ce sera dans un moment.
Oui, bah à me voir, vous y parvenez.
Donc,
oui, je disais qu'il y avait des pages très très belles, pages 104 ou 105. Mais c'est quand justement la maman, la mère de Jeanne, le personnage principal, ça se passe le soir. C'est un peu avant, bien sûr, qu'elle ne disparaisse, puisqu'on vous l'avait dit, vous avez expliqué qu'elle vit ses derniers moments à Nice, dans cet hôtel, dans un hôtel. Et là, la mère se demande ce qu'elle fait là ici et surtout comme elle sait qu'elle va partir. C'est très émouvant parce qu'on rentre dans le personnage, elle sait qu'elle va partir et à haute voix elle dit à sa fille: mais je ne vais pas voir tout ça, je vais pas connaître mes petits-enfants, je vais pas connaître ça et ça et ça. Et c'est à pleurer ce passage là.
Ah mais c'est vrai. En réalité, j'ai perdu ma mère moi-même à 25 ans et elle avait 50 ans et j'ai réalisé que faire le deuil de sa mère, moi j'étais fille unique, avec mon père était mort quand j'avais 9 ans, donc c'était extrêmement compliqué. Mais ce qui allait être encore plus compliqué, c'est de faire le deuil de la grand-mère de mes enfants. Je connaissais pas encore leur père, j'avais pas encore d'enfants, mais j'ai eu cette intuition là que tout d'un coup, accoucher seule, sans ma mère, ne pas pouvoir lui téléphoner pour lui dire voilà, j'ai ça et ça comme problème, qu'est-ce que tu me conseilles, ne pas pouvoir les lui amener, ne pas pouvoir les entendre l'appeler comme moi j'appelais ma grand-mère, c'est très compliqué. J'ai essayé de dire tout ça sans pleurnicher.
Alors, et sans pleurnicher, je vais vous citer. C'est ce que je ne verrai plus, je ne t'entendrai plus, elle s'adresse à sa fille. Et mes petits-enfants, je ne les garderai pas quand leurs parents sortiront. Ils n'auront pas de chambre chez moi. Tu sais, la chambre du mardi soir, la chambre du samedi, je n'irai pas les chercher à l'école. Je ne leur achèterai pas tout et n'importe quoi. Quelle femme vas-tu devenir? Quel homme te donnera son nom? Comment appelleras-tu tes enfants? Quel genre de mère seras-tu? Qui te consolera quand tu seras déçu? Etc. Effectivement, ce sont des très belles questions. On peut pas les imaginer comme ça. Fallait y penser.
Mais ils s'appellent Simon et Salomé. Ils ont 15 et 13 ans et ils sont mon bonheur et ma joie et ma fierté.
Ah, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Voilà. Mais quel très joli roman. Je le dis
merci
avec beaucoup de sincérité. Et je suis ravi qu'on m'ait parlé de vous. Je vous ai rencontré dans ce roman. Et c'est pas un roman de 3000 pages, hein. Il fait 130 pages. Je regarde le nombre de pages. 120 pages. Il est très très joli. Et alors on dit c'est un roman féminin. Hein. C'est
féminin.
Nous avons
l'exclusivité du chagrin, nous les
non,
femmes.
Non, justement, c'est ce que certains pourraient dire, c'est un roman féminin, etc. Mais je trouve que c'est un roman justement universel parce que ça parle de l'amour.
C'est un roman où les hommes sont peut-être un peu maltraités, je reconnais.
Oui, c'est vrai.
Plus féministe que féminin.
Bon, alors, le rôle de l'invité témoin que vous êtes, Anne Goscinny, Le sommeil le plus doux, c'est le titre de votre roman, à nouveau chez Grasset, c'est d'écouter, d'être là, de présent, de ne pas hésiter à jouer votre rôle de Candide.
De pavé dans la mare.
Voilà, éventuellement,
hein, mai 68.
L'avocat du diable, éventuellement, mais Barricade.
Barricade, ok.
Barricade Goscinny. Vous restez avec nous, on est ravis de vous avoir.
Merci.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Alors on va parler d'emploi, c'est notre rôle. Vous aidez peut-être même à recruter votre futur employeur. À la fois, je suis ravi de vous présenter trois autres invités. À la fois, donc, Dimitri Achikmin. Bonjour Dimitri.
Bonjour.
On entend votre voix. Bonjour Denis Bout.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et enfin, Édouard Alquier.
Bonjour.
L'homme qui... Vous avez fermé votre smartphone, Denis?
Complètement.
Bah, attention, hein, on va vérifier. Parce que vous devez monter l'exemple en l'moment. On va revenir vers vous tout à l'heure dans quelques minutes. Enfin, après, dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, je vais vous présenter donc quelqu'un qui est passionné par tout ce qui touche au digital, on peut dire ça. Hein. Vous avez, Dimitri... vous avez un nom pas facile. Achikmin.
Achikmin, c'est très bien.
Ouais, c'est un nom de quelle origine? Comme ça, on évacue le truc.
Russe.
Russe.
Ouais.
Achikmin.
Ouais.
Et votre prénom, c'est Dimitri. J'aurais dû m'en douter.
Continuez avec Dimitri, ça va très bien.
Je vais appeler Dimitri, ça sera plus simple. Donc, vous êtes directeur associé de FWA, société spécialisée dans le développement de logiciels de gestion. C'est un secteur en plein boom, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, depuis 11 ans, c'est en boom.
Oui. Et il faut une passion particulière pour l'exercer?
Il faut aimer la finance, il faut aimer l'informatique.
Ah bon? La finance?
Oui.
C'est-à-dire?
Le logiciel de gestion, c'est toujours pour les entreprises, donc toujours chercher un gain d'argent.
Oui. Et une rentabilité, une meilleure rentabilité.
Oui. Et donc, il y a plein de logiciels ennuyants qu'on a développés en 11 ans. Et on a décidé qu'on va trouver un sujet un petit peu plus marrant cette fois-ci. Donc, on s'est attaqué à la gestion des files d'attente dans des supermarchés, dans des parcs d'attractions, dans d'autres endroits.
Ah, expliquez-moi, c'est intéressant, c'est-à-dire?
On n'a plus envie de faire la file d'attente, déjà, nous tous, donc au niveau de notre entreprise. Et puis, on a envie de partager ce délire avec toute la France. Donc, l'idée, c'est quand on est dans un supermarché, on prend la place dans une file d'attente. Et puis, on est appelé quand c'est notre tour. Donc, on arrive à la caisse et l'hôtesse de caisse nous ouvre les bras. Elle dit, venez, je vous attends.
Oui, ça, c'est du fantasme.
Ah non, on va le traduire en réalité dès le mois de juin, en Corse. Donc,
c'est étonnant, ça.
On va passer toute notre phase pilote en Corse.
Dans un supermarché.
Le jour, pas le soir.
Mais c'est-à-dire qu'on entre dans le supermarché déjà avec je vais pas dévoiler, peut-être, il y a peut-être un secret pour l'instant, mais c'est quoi? On entre dans le supermarché avec un numéro,
avec un smartphone. Une application mobile qui nous permet de nous géolocaliser, de lister les files d'attente qui sont autour, de prendre la place dans une file d'attente.
Oui, mais la file d'attente, c'est quand on va à la caisse, une fois qu'on a tout acheté.
Oui, mais on peut le faire avant, maintenant. On peut se promener dans les rayons et prendre la place dans la file d'attente.
Je comprends pas. Alors, attendez. Quand on rentre, moi, je vais dans un supermarché, je dis bonjour, et après, avec mon caddie, je vais faire mes achats.
Oui. Et en même temps, vous avez votre smartphone dans la main, parce que vous avez toujours votre smartphone dans la main, n'est-ce pas?
Donc. Ça fait rire. Qui lui veut faire enlever des salariés les smartphones? Vous nous le remettez dans le magasin. Alors, oui.
Et du coup, ce smartphone vous liste les files d'attente, et vous choisissez la file d'attente au rayon frais, la file d'attente chez l'expert cuisine. Vous allez chez Ikea de temps en temps.
Oui.
Oui, donc.
Pas tous les jours.
Ou la file d'attente des caisses principales, et quand votre tour arrive, vous êtes appelé à la caisse.
Mais vous pourriez le faire chez Disney, par exemple.
Absolument.
Non, parce que chez Disney, quand on va au parc d'attractions, il y a des files. Alors, pendant l'été, c'est encore plus dingue, il y a des files d'attente énormes.
Oui, mais toutes les files d'attente sont bonnes à traiter.
Vous êtes monsieur file d'attente.
Sauf une.
Oui,
c'est la file d'attente pour signature du livre. Je pense que celle-là, il faut la garder.
Ça, c'est pour Anne Goscinny. Restez avec nous, vous allez nous expliquer un petit peu les autres applications auxquelles vous pensez et les recrutements qui sont les vôtres.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Alors, Dimitri,
moi,
c'est vous, Dimitri. C'est drôle, votre histoire. Oui, après, on va parler d'emploi, mais la file d'attente. Monsieur file d'attente, on l'a entendu. Voilà, comment régler le problème de la file d'attente? Oui, vous dites que la file d'attente aussi pour la signature du bouquin, parce que vous...
Non,
vous
celle-là, on ne va pas la gérer. On refuse.
De Anne Goscinny pour son livre. Le sommeil le plus doux. Vous lui posez une question, allez-y, oui. Parce que normalement, c'est dans l'autre sens. C'est elle qui devrait aller l'inviter de témoin, c'est elle qui devrait vous poser des questions. Mais allez-y, posez-lui une question.
Oui,
vous avez le droit.
Je l'ai lu le livre cette semaine et ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la grand-mère, elle existe vraiment? Ou c'est un personnage imaginaire et qu'il accompagne les deux femmes juste dans leur imaginaire?
La grand-mère, elle est russe. Elle vient d'Ukraine.
Et il y a un point commun, là, dans l'histoire.
Elle parle yiddish. Et la grand-mère est un fantôme, elle n'existe pas. Elle accompagne les personnages.
Donc j'ai bien compris.
Voilà.
Oui. Vous vouliez poser une question à votre tour, à Dimitri?
Par rapport à la file d'attente, j'ai pas tout compris le concept, mais entre dans le supermarché, on a son smartphone, on est géolocalisé.
Et vous prenez la place dans une file d'attente avec votre smartphone.
Mais parce qu'il y a des files d'attente dans les grandes surfaces.
Mais donc il y a quand même des files d'attente, ça n'exclut pas les files d'attente.
Sauf que vous faites votre attente en naviguant dans les rayons. Vous ne faites plus votre file d'attente devant la caisse. L'énervement de rester à la caisse, de bien choisir la bonne caisse, parce que les autres forcément sont plus rapides que la vôtre, ça n'existe plus.
Donc en fait, on fait plus la queue pour la caisse femme enceinte alors qu'on n'est pas enceinte et on a poireauté 3 heures. Tout ça, ça n'existera plus.
Ça n'existera pas.
Alors autre exemple que vous pouvez nous citer.
Moi, je pense qu'il faut vous ériger une statue.
Bon, on va économiser
une médaille. Autre exemple, Dimitri, de logiciels sur lesquels vous êtes en train de travailler en ce moment.
Bon, les autres sont moins marrants quand même.
Ah. Donc, on va laisser tomber.
Alors. Oui, parce que la gestion budgétaire, ça intéresse des entreprises, mais c'est difficile d'en parler parce que le budget, personne n'aime le faire.
Alors, c'est une entreprise, votre société, hein, est une entreprise des services numériques qui a été créée il y a 10 ans. Est récemment installé dans le 15e arrondissement de Paris. Vous avez, m'a-t-on dit, développé 250 projets spécifiques pour énormément de clients, 75
75 clients, tout à fait.
Alors, dont Médecins Sans Frontières, ça s'est étonné.
Oui.
C'est étonnant, pardon. Ça m'a étonné. C'est étonnant. Vous avez fait quoi pour Médecins Sans Frontières?
Ben justement, l'application de gestion de budget. Donc,
Là, c'est du sérieux.
Une ONG, c'est très sérieux en termes de contrôle de coûts, que ce soit les coûts des salaires ou bien les coûts de projet, parce que les Médecins Sans Frontières sont présents pratiquement partout dans le monde. Donc, du coup, maîtriser leurs projets et planifier leurs coûts avec notre application, c'est quelque chose de stratégique pour eux.
Alors, vous travaillez aussi pour ERDF, Bolloré Africa.
Oui.
Qui fait beaucoup parler de lui. Monsieur Bolloré, sans faire de régie chez le client, et votre équipe est composée de 10 nationalités différentes.
Tout à fait.
Vous êtes à Paris, pourquoi 10 nationalités différentes? C'est le hasard ou c'est un choix?
C'est le hasard, mais je pense que l'informatique, c'est...
Vous parlez la même langue?
Oui, on parle la même langue, même si, c'est pas toujours le français.
Même celle du digital, quoi, du développement. C'est ça? Alors, vous recherchez des développeurs, c'est pour ça qu'on est ravis de vous recevoir dans cette émission. On aide
désespérément.
On aide les entreprises à recruter leurs futurs salariés. Qui recherchez-vous, mon cher Dimitri? Comment peut-on vous aider?
Des développeurs en application, en technologie .NET. Si on a des développeurs filles, qu'est-ce qu'on serait content? Parce que on a recruté
des mecs dans la boîte.
Une responsable communication, donc on en est très content, mais une développeuse, ça reste un rêve encore.
Ouais. Voilà. Alors combien de personnes recherchez-vous?
5.
5 personnes. Vous recherchez des développeurs Microsoft talentueux, ça veut dire quoi talentueux?
Qui sont nés avec
des geeks,
avec l'idée de l'informatique dans la bouche, qui développent le soir pour eux-mêmes, qui sont passionnés par le métier et qui veulent révolutionner le monde informatique.
Alors j'ai vu que vous cherchez des geeks, j'aime bien la formule parce que c'est tellement rare dans les offres d'emploi, des geeks, des nerds, NERDS, je sais pas comment on prononce.
Oui, c'est encore pire que le geek, c'est vrai.
NERDS, comment on prononce? Des nerds.
De nerd.
Nerd.
Ouais.
C'est un anglais?
Oui.
Ça veut dire quoi?
C'est celui qui s'est complètement coupé de toute communication sociale.
Oula.
Et
voilà, qui intéressant, les déjeuners.
Mais on les développe en fait. On les développe, on les sort. Par exemple, cette semaine, on fait une sortie au Louvre et on va découvrir une bonne partie de notre équipe de développement parce que pour la première fois, ils verront le Louvre.
Ah ouais, ils reviennent de loin quand même, les mecs là. Ouais. D'accord.
Alors c'est vraiment timide, ils ajoutent timide ou expansif. En général, ils sont timides, j'imagine, les geeks. Alors pour contribuer au développement de votre produit phare qui s'appelle donc Dispodoc, c'est quoi Dispodoc?
C'est une...
Qui a la patate, je lis le dossier de presse, il est formidable.
C'est une solution de gestion électronique de documents. Donc c'est une patate chaude que... En fait, un document, c'est une patate chaude qu'on jette l'un à l'autre en disant « Je vais pas traiter ce document-là, c'est à toi de le faire. »
Ça donne envie de venir bosser chez vous, en tout cas. La façon dont il en parle.
Ah je me sens complètement autiste au Louvre. Moi,
Alors, vous cherchez donc des développeurs. Vous recherchez également, pour répondre aux demandes de développement d'applications de gestion spécifique pour vos clients, d'autres profils?
C'est très bien
cela.
Ça, oui.
Voilà. Alors... parce que vous avez des projets, beaucoup de contrats, j'imagine, en développement. Il faut des talents. Plusieurs postes de développeurs expérimentés. C'est quoi le développeur ASP.net?
C'est toujours dans la technologie Microsoft.
Ils vont se reconnaître.
C'est une technologie, développement des applications web pour Microsoft, avec la technologie Microsoft.
Et j'aime bien parce que dans les valeurs à partager, il y a bien sûr performance, volonté de développement personnel, qualité, etc. Et dernière ligne, humour et savoir ne pas se prendre trop au sérieux.
Oui, obligatoire.
Quand on entend le patron et des patrons, on voit bien que... C'est là pourquoi c'est important l'humour dans votre secteur, dans votre métier?
Pour communiquer. Pour chercher à s'éclater, pour ne pas rester tout le temps la tête dans l'écran. Donc c'est très important.
Déjà qu'on est autiste, si on vous connaît, si je comprends. L'humour, c'est important, bien sûr. Et c'est souvent avec l'humour qu'on trouve des choses.
Ouais. Donc on crée un environnement open space où les gens peuvent discuter ensemble. Donc on peut, ils peuvent faire des blagues.
Et alors on toujours. On va parler de la sortie au Louvre ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé au Louvre quand on n'a rien vu en fait?
Elle y tient au Louvre.
On a fait une autre sortie qui leur a beaucoup plu, qui s'appelle Paris Insolite, où on a navigué dans les rues de Paris et on a vu des endroits où il y avait des crimes qui sont passés, là où Henri IV a été assassiné. Donc c'était vraiment le
courture à Bayac.
Tout le monde avait beaucoup aimé.
Alors toujours, et je termine là-dessus, à la fameuse question, quels sont les plus que vous offrez à ceux que vous souhaitez recruter? Alors mutuelle, prévoyance, prime?
Oui.
Bon, ticket restaurant, chèque cadeau, remboursement de frais, tout ça c'est normal. Mais je lis toujours, hein, possibilité de travailler une partie de son temps en mode déconnecté.
Oui, ils peuvent rester chez eux de temps en temps.
Ah, c'est cool ça.
On connaît les grèves de transport, on connaît les enfants qui sont malades, donc on est plein de situations, on aimerait bien rester chez nous et travailler.
Alors je continue dans les avantages, locaux modernes et bien situés. Ils sont où vos locaux?
On les a rapprochés de BFM Radio.
Donc, ah oui, vous êtes dans le 15e.
Oui, pour venir plus souvent ici.
Et enfin, je cite, mais c'est très drôle, ils ont beaucoup d'humour, je vous assure, j'espère que ça va vous donner envie de rencontrer Dimitri Achikmin, en tout cas, si vous faites partie des geeks qui cherchent un job de développeur. Et enfin, dans les plus, il y a Anne Goscinny. Café, thé, gâteau à volonté.
Pourquoi vous me regardez quand vous dites gâteau à volonté?
Parce que je pense que ça va vous faire réagir.
C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'entendre un martien parler des martiens, quoi. Je comprends pas du tout ce que vous dites, mais je vous trouve infiniment sympathique. Et l'idée d'aller dans un Paris criminel, à la rencontre de Guy Georges, tout ça, je trouve ça vraiment bien.
Et non, d'offrir vraiment des gâteaux dans l'entreprise.
Oui, c'est ça.
C'est rare, c'est tellement rare dans une entreprise d'entendre des choses comme ça, d'avoir une proposition comme celle-là. Je vous remercie. Vous restez avec nous, hein. On va continuer dans la deuxième partie. On va peut-être peaufiner un petit peu plus.
Avec plaisir.
Mais je suis ravi de vous rencontrer et d'avoir, à donner un coup de pouce à vos offres d'emploi.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Alors Denis Bout, vous êtes invité, notre troisième invité de cette émission. Vous écoutez sagement. Hein. Bon, il n'y a pas de seniors chez eux. Vous avez compris chez les.
Ah, ça j'ai bien compris. Oui.
Dans cette belle entreprise FWA, il y a que des geeks, des gens de la génération Y, j'imagine. Moyenne d'âge, c'est quoi? Excusez-moi, je reviens vers vous.
On est Dimitri. Dans les 25 ans. Ouais.
Voilà, tous des vieux, que des vieux.
Mais là, probablement la chose qu'on doit partager avec eux, c'est l'esprit dynamique, presque j'allais dire la bonne humeur, même si on s'occupe des gens qui sont en reconversion de carrière, c'est aussi notre volonté de le faire plutôt dans une ambiance décontractée et plutôt que compassée.
Vous offrez les gâteaux, vous aussi, le café, le thé?
Le café, le thé éventuellement, de temps en temps un petit coup à boire pour célébrer quelqu'un qui retrouve un job. Mais
alors Denis Bout, on va parler de vous parce que les infos vont arriver, mais déjà pour situer le débat, vous êtes cofondateur d'une société qui s'appelle Avenir Dirigeant.
Oui. Hein,
ma langue a chourfé tout à l'heure dans le sommaire, c'est bien Avenir Dirigeant.
C'est Avenir Dirigeant.
Fondée il y a 2 ans.
Exactement. Bien ça.
C'est une société d'outplacement. Bon, on sait ce que c'est que l'outplacement, bien sûr, sur BFM Business. Et une société ce qu'on appelle la transition de carrière.
Exactement.
Ceux qui sont en transition, des cadres.
Alors
en général,
on accompagne, la plus grosse partie de nos clients sont ceux qui ont quitté l'entreprise et qui ont besoin de se repositionner, de se remettre un peu éventuellement même sur un projet différent de là où ils sortent. Et puis on a d'autres prestations où on aide les gens à évoluer au sein d'une entreprise, voire à quitter leur entreprise par anticipation ou parce que c'est le moment de la retraite et que c'est un moment important pour eux à passer.
Vos clients, ce sont les entreprises qui recherchent ces professionnels.
Alors quand
on vous écoute, vous dites nos clients sont.
Alors nos clients, c'est vrai que moi par abus de langage, j'appelle clients les personnes qu'on accompagne.
Voilà.
C'est vrai que le client final, c'est-à-dire celui qui paye la prestation, c'est
l'entreprise. C'était un peu ma question. Hein.
C'est l'entreprise.
Ah, on est d'accord.
Soit dans lesquels ils sont encore salariés, soit qui les a licenciés, mais qui leur offre entre guillemets cette prestation dans le cadre de leur séparation.
Est-ce que, pardon de vous poser cette question aussi brutalement, est-ce que l'outplacement aujourd'hui marche bien?
Alors moi, je suis sur un créneau très particulier qui est celui des cadres supérieurs et surtout dirigeants. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a toujours des besoins. Il y a beaucoup de restructuration, mais quand il y a une restructuration, il y a des gens qui sortent, mais il y a aussi des gens qui rentrent.
Mmh.
Et on surfe, on va dire, sur cette vague-là. Donc oui, c'est un marché qui fonctionne. Il y a encore peu de pénétration dans le marché, mais globalement, c'est une prestation qui commence à être un peu plus connue qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années.
Mmh. On va en parler. Vous employez combien de personnes juste avant de...
Nous sommes 6 collaborateurs et associés au sein du cabinet, plus
à Paris,
plus une office manager, oui.
Et chaque année, c'est combien de missions?
c'est à peu près une 70 à 80 missions par an dans le cabinet.
D'outplacement. Alors, les infos vont arriver. Juste un mot, Anne Goscinny, vous n'avez pas besoin d'outplacement, vous travaillez seule.
Je travaille seule, mais si mon éditeur veut plus de moi pour le prochain roman, il faudra bien me outplacer.
Il appellera Denis Bout qui vous trouvera un autre éditeur, vous inquiétez pas. On est ravis de vous avoir. Première demi-heure terminée, les infos arrivent. On se retrouve juste après dans le Club Média RH.
BFM Business, le Club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Avec Anne Goscinny, notre invitée témoin pour Le sommeil le plus doux, qui est paru chez Grasset, à Paris aussi. Rebonjour Anne.
Bonjour.
C'est un très joli roman que je vous conseille vraiment de lire. Très joli roman, Le sommeil le plus doux, une très belle histoire. On y reviendra aussi tout à l'heure pour en reparler. Qui est notre invitée témoin, qui pose toutes les questions qu'elle veut, elle ne s'en prive pas. Et fait toutes ses réflexions avec nos autres invités qui sont Dimitri Achikmin de FWA. Qui nous a parlé de directeur associé de FWA, une société spécialisée dans le développement de logiciels de gestion. Vous avez entendu, il est à la recherche de nouveaux collaborateurs, des développeurs, avec Edouard Alquier, cofondateur de Caldor.
Coldor.
C'est là avec l'accent anglais, Coldor. On va l'entendre dans quelques minutes. Et puis également Denis Bout qui est avec nous. On a commencé à échanger sur son sujet à lui qui est l'outplacement. Alors Denis Bout, je reviens vers vous. Donc l'outplacement, c'est un secteur qui a été très très affecté en 2008, avec la crise à ce moment-là, comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs.
Oui, il y a eu effectivement pas mal d'entreprises qui ont resserré, en fait, ont resserré des budgets, très classiquement. Mais c'est quand même une prestation dont on se rend compte de l'intérêt, de l'efficacité, et qui en fait est réussie à sortir de la crise plutôt la tête haute. Et même s'il y a eu un resserrement des budgets de fonctionnement, le métier lui-même reste un métier de plus en plus partagé.
Alors pouvez-vous nous rappeler le principe de ce métier, de l'outplacement?
Alors l'outplacement, on reçoit donc les personnes que je vais par abus de langage appeler mes clients, parce que c'est quand même avec eux que je travaille in fine.
Une entreprise a décidé
de se séparer de quelqu'un.
Voilà. Ou de plusieurs personnes.
Mais moi je fais plutôt de l'accompagnement individuel.
Oui, de cadres
dirigeants individuels qui viennent me voir en me disant voilà, pour telle et telle circonstance, je suis amené à quitter mon entreprise. Dans le cadre de ma négociation, je bénéficie ou je souhaite bénéficier d'une prestation d'outplacement. Et quand on démarre ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Grosso modo, on va reformuler un projet. Parce que beaucoup de personnes peuvent vouloir changer d'orientation professionnelle.
De profiter.
Et puis, quand t'as 50 ans, on n'a plus envie de refaire ce qu'on a fait depuis 32 ans et on a envie de changer, on a des projets d'entrepreneuriat, on a envie de donner plus de sens à son métier, de moins être dans les avions ou sur son smartphone. Et donc, on fait tout ce travail d'identification de ce sur quoi on pourrait refonder une nouvelle ère de vie professionnelle. Une fois qu'on a fait ce travail, on apprend à parler de ça, à utiliser les bons outils, LinkedIn en est un, le sempiternel CV en est un autre qui est en train de plonger. Et ensuite, on apprend aux gens à parler d'eux-mêmes auprès des futurs recruteurs potentiels qui vont devoir rencontrer beaucoup par démarche de réseau. Et on va les accompagner pendant toute leur période de recherche jusqu'à temps qu'ils trouvent un nouveau boulot. Et à ce moment-là, on termine la prestation en les aidant à prendre pied dans leur nouvelle entreprise pour bien se positionner et faire en sorte que ça soit une intégration réussie.
Alors, plein de questions, Anne va en poser certainement, mais ce n'est pas réservé à une élite, l'outplacement, ou à une catégorie de gens.
C'est aujourd'hui en France plutôt une prestation réservée aux cadres.
D'accord.
Mais il peut y avoir aussi des antennes emploi pour des populations plus employées. Mais c'est un métier différent.
Reprenons l'outplacement pour les cadres, qui est votre expertise. Oui. Est-ce que l'on peut demander, dans le cadre d'une négociation, effectivement, un contrat d'outplacement?
Ah, non seulement on peut, mais il faut.
Vous dites il faut.
Il faut, et on travaille beaucoup avec des avocats qui vont dans ce sens-là.
Ouais.
Et beaucoup avec des DRH qui sont très très ouverts aussi à ce type de prestation pour certaines personnes dont ils comprennent bien que ça va pas être facile.
Mais
pour
ça fait partie des indemnités pour la personne?
C'est dissocié des indemnités sur le plan juridico-fiscal, mais c'est une prestation au même titre qu'une prestation de coaching.
Et elle dure combien de temps, cette période d'outplacement?
Alors nous, on privilégie des accompagnements à durée indéterminée, justement, pour éviter le stress du temps. On signe des contrats sur lesquels on accompagne la personne aussi longtemps que nécessaire. Donc ça peut prendre 3 mois, 12 mois ou 15 mois pour certaines personnes qui ont un peu plus de difficultés que d'autres.
Ouais. Anne Goscinny,
si la personne est complètement déprimée de s'être fait virer de son entreprise, vous payez une psychanalyse qui dure 8 ans, 10 ans? Parce qu'il y a quand même, j'imagine, un aspect
choc,
un aspect moral. Et, J'imagine que vous pouvez voir arriver chez vous des gens qui sont complètement dézingués par ce qui vient de leur arriver.
C'est vrai. On essaie de démarrer la prestation quand la personne est physiquement et moralement capable de se reprendre un petit peu en main, mais ça fait aussi partie du boulot pour nous, de la remettre sur pied en termes de fierté personnelle, en termes de confiance.
De réassurance.
Mais c'est vrai, quand on a des victimes de burn-out approfondi, c'est vrai que la plupart de ces personnes se font suivre par ailleurs, mais ça, c'est évidemment pas notre
métier. C'est pour vous. Alors, en général, quel est le temps moyen d'un contrat d'out placement pour un individu qui vient chez vous?
On va compter entre 7 et 8 mois pour retrouver un job.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le pourcentage, selon vous, avec votre expertise, votre expérience et votre recul, d'hommes et de femmes qui sont, comme vous dites, vos clients, et qui ont changé de métier ou qui ont changé d'orientation?
À peu près 1 sur 3. Mais c'est
après ce choc du départ, parce qu'en fait, ils sont quand même... Il y a le choc de... Ils ont travaillé un certain temps. En général, c'est au bout de combien d'années? Là encore, en moyenne, bon, si on devait faire des statistiques... Bah,
c'est-à-dire que la moyenne d'âge chez nous, c'est plutôt entre 45 et 55 ans. D'accord. Et plus on va vers les 50-55 ans, plus on va s'orienter vers des changements. Donc, globalement, sur l'ensemble, c'est 1 sur 3. Mais sur les dernières parties de 50 ans et plus, c'est souvent 1 sur 2. Donc, ça veut dire qu'on change soit d'entreprise, soit de métier, mais surtout de... Enfin, pas d'entreprise, pardon, de façon de travailler dans l'entreprise. Oui. On fait plus forcément du CDI, on peut se lancer dans une activité de conseil, on peut reprendre une entreprise, on peut travailler avec des fonds pour investir dans des boîtes, on peut faire du management par transition, etc.
Mais pour rebondir sur ce que la question d'Anne Goscinny, c'est vrai, qu'est-ce qui vous différencie... Pardon, elle est peut-être brutale, mais vous avez quelque part un rôle de psy, quoi, en accompagnement. Parce que ce sont des gens qui... Non, mais pour les aider à trouver leur nouvelle voie, je parle.
Oui.
Vous les faites accoucher, parce qu'il y a quelque part un accouchement. C'est ça que vous vouliez dire, Anne Goscinny. Hein.
Exactement.
Il y a une forme d'accouchement d'une nouvelle vie.
On a quelques outils pour leur permettre de comprendre ce qu'on va appeler leur zone de confort, là où ils sont forts, là où ils sont en faiblesse. Et puis quelques outils aussi pour essayer de déceler les compétences qu'ils ont envie de mettre en avant, celles qu'ils ne veulent plus mettre en avant. Et puis ensuite, c'est notre boulot de créer une maïeutique et d'inventer des nouveaux projets avec eux.
Denis Bout, encore une question sur l'outplacement. Toujours pareil, il n'y a peut-être pas de chiffres précis. Je vous pose des questions peut-être qui sont peut-être saugrenues, mais est-ce qu'il y a, dans votre vous qui avez l'expérience justement de ce secteur, un pourcentage de gens qui ont choisi des orientations étonnantes, ou est-ce que vous pouvez nous les citer parmi ces cadres de supérieurs, de haut niveau que vous traitez? Est-ce que vous avez été parfois étonné de voir des gens aller dans des directions?
Alors, il faut faire attention à une chose, c'est ce que je vais appeler le projet de fuite. On peut avoir un projet du cœur, c'est-à-dire essayer de prendre une activité qu'on aime bien, par exemple créer une entreprise dans un secteur tout à fait différent de celui d'où on venait. Moi, j'ai connu un financier qui s'est lancé dans un business, c'est vrai, à base de finance, mais pour acheter et vendre des voitures d'occasion et des belles voitures. Voilà, c'était son fonds de commerce, son asset, comme on dit dans le métier. Et au lieu de faire des produits bancaires, et sa passion, c'était les voitures, donc il s'est mis à faire ça. Et puis, il y en a d'autres. Les projets de fuite, c'est quoi?
Mais il y avait peut-être une compétence au départ.
Il y avait une compétence financière.
Non, mais une compétence aussi sur les voitures. C'était sa passion, si je comprends.
C'était son hobby, exactement. Voilà. Mais en revanche, le projet de fuite sur lequel on alerte quand même nos clients, c'est vouloir monter une maison d'hôte à côté de Nice, par exemple, et qui est un projet totalement utopique, juste pour dire j'ai envie de changer de cadre, etc.
Donc c'est pas utopique de monter une maison d'hôte.
Non, c'est pas utopique, sauf que ce qui peut être utopique, c'est que la personne s'en croit capable et qu'en fait il a qu'une envie, c'est de se barrer de Paris.
Il faut savoir discerner la fuite de la volonté réelle.
Exactement.
Ouais,
exactement.
C'est très compliqué.
Alors,
ça.
J'aimerais, puisqu'on a la possibilité d'échanger avec vous, Denis Bout, et que vous êtes un expert, mais alors cette fois parler de votre, toujours à propos d'expertise, vous avez mis au point un pack qui s'appelle le Silver Pack. Alors, c'est notre domaine qui permet d'anticiper sa retraite. Je ne sais pas quel est le rapport par rapport à l'outplacement, mais je vous laisse vous expliquer.
En fait, c'est la même démarche, sauf que au lieu que la personne ait quitté son entreprise, on l'aide à lui faire prendre conscience qu'une fois qu'il sera à la retraite, il y a une autre vie possible pour vous, y compris professionnel, avec peut-être un impact financier moins lourd parce qu'il bénéficiera de sa retraite. Mais la plupart des gens sont souvent bloqués à l'idée de partir en retraite par la question qu'est-ce que je vais faire après, quel statut social je vais avoir, voire même la perte de statut social, etc. Puis un autre sujet qui intéresse les entreprises aussi, c'est comment aider les personnes à se mettre en mouvement et comment gérer le départ d'un cadre, notamment d'un cadre dirigeant au sein d'une organisation où il était souvent, où il cristallisait pas mal de responsabilités, etc. La transmission du savoir, le fait de éventuellement recruter son successeur et de se positionner, etc. Donc c'est.
Alors vous avez mis en place, oui.
On a mis en place ce produit-là ou ce projet-là d'accompagnement où on travaille pendant quelques mois. En lien avec la RH d'ailleurs de l'entreprise sur les derniers mois de la personne au sein de son entreprise, comment il va faire, il va peut-être travailler de moins en moins, il va faire de la transmission de savoir, etc.
Excusez-moi de vous couper, là le client c'est l'entreprise.
Le client c'est à la fois l'entreprise
et vous propose des candidats.
Et le collaborateur, ça peut être
qui paye pour que le vous preniez en charge.
Dans tous les cas de figure, c'est l'entreprise qui paye.
C'est ça, mais qui paye pour que vous preniez en charge cette personne.
À l'origine de la demande,
en vue de ça, à l'origine de son départ.
À l'origine de la demande, on peut avoir les deux. On peut avoir le collaborateur qui aurait envie de partir en retraite mais qui sait pas très bien, ou le DRH qui vient nous voir en nous disant j'ai deux ou trois personnes que j'aimerais bien pouvoir accompagner dans ce cadre-là, qui sont un peu paniquées ou figées à l'idée de devoir partir de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous aider à rendre ça plus fluide?
Et alors qu'est-ce qui se passe alors dans ce cas-là?
Et ben dans ce cas-là,
comment ça marche?
On lui explique et on travaille même chose, on travaille avec lui pendant 2-3 mois sur ses projets.
C'est sur mesure?
C'est sur mesure, toujours. C'est toujours sur mesure. Et une fois qu'il a quitté l'entreprise, on va l'accompagner dans la mise en œuvre des projets qu'on aura.
Alors, si j'ai bien compris votre produit, hein, Silver Pack, c'est en deux temps, un avant le départ et l'autre après.
L'autre après, exactement.
C'est ça.
Et probablement le plus gros du travail au niveau de la réflexion projet se fera avant le départ à l'entreprise, parce qu'il y a d'une part gérer la relation entre le candidat, donc la personne concernée, et son entourage au sein de l'entreprise, et puis travailler à côté sur qu'est-ce qu'il pourra faire demain.
Quel engagement prenez-vous vis-à-vis, dernière question, quel engagement Denis Boutet prenez-vous vis-à-vis l'engagement d'avenir dirigeant, vis-à-vis des dirigeants seniors?
L'engagement de leur apprendre à travailler différemment, de les mettre au courant des différentes formes de travail qui existent en dehors du CDI. Et il y en a énormément, et il y a énormément de besoins aussi d'entreprises pour avoir des rapports avec des cadres expérimentés différents de simplement une embauche classique CDI. Ça peut être du part-time, ça peut être des missions, ça peut être
une nouvelle vie. Oui, reconsidérer l'emploi d'une autre manière.
Reconsidérer l'emploi d'une autre manière, c'est exactement ça le sujet.
Mais alors vous, Anne Goscinny, vous posez même pas la question, parce qu'un écrivain, il a pas le droit à l'outplacement. Il faut qu'il bosse et tout. Il faut qu'il livre son livre.
Je reviens encore là-dessus. Je trouve qu'on est quand même dans un truc très psychologique, c'est-à-dire que les seniors, vous leur expliquez que maintenant la vie sociale va être terminée, qu'il faut se
diriger. Non, c'est pas terminé. Non, il a pas dit ça.
Une autre forme va arriver. Une autre forme va arriver. C'est un peu les soins palliatifs.
Vous êtes dur, hein. Ouais, oh là là. Bon, je vais m'occuper de vous. On se retrouve dans quelques instants.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Bien évidemment, je demanderai à chacun des invités leur site, leur adresse mail, non pas leur adresse mail, l'adresse de leur site internet, car je suis sûr que pour l'un et l'autre, les uns et les autres, vous avez envie de continuer l'émission et d'entrer en contact avec nos invités, notamment avec la société FWA qui cherche donc des développeurs, et également Denis Boot qui lance donc son Silver Pack. Anne Goscinny, vous avez été dur là, oui, vous avez raison, c'est vrai que j'ai oublié qu'on vous avez failli vous appeler Barricade Goscinny.
Non mais.
Mais 68, on sent le.
Non mais suite.
Vous allez Place de la République, vous êtes allé Place de la République.
Et non.
Non, vous n'avez pas le temps parce que vous signez les bouquins.
Mais je suis quand même frappée par les compétences de psychologiques qu'il faut avoir pour faire votre métier, et surtout la qualité de l'écoute qu'il faut avoir pour rassurer les gens et leur dire c'est pas parce que là on t'explique que t'as plus tout à fait l'âge et que votre vie ça s'arrête quoi. Je suis frappée par ça.
Oui. Mais j'aime bien moi l'idée du soin palliatif, parce qu'on fait aussi, on apprend à faire le deuil d'une certaine forme de travail et de statut social pour les faire renaître à une autre histoire qui va
rebondir.
Être un peu plus leur.
Ce qu'on appelle rebondir.
Rebondir, mais ils vont construire leur histoire et ça c'est souvent beaucoup plus intéressant.
Je suis ravi de vous présenter un autre invité, le dernier de cette émission. Il est sage jusqu'à présent et c'est bizarre, son téléphone n'a pas sonné, mais vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de Denis Alquier, qui est fondateur de Cold Door. Je l'ai bien prononcé.
Parfait.
Alors, c'est permettre aux entreprises de déconnecter leurs salariés, de leur smartphone. Alors, c'est vrai que c'est un drame. Moi, je vais vous expliquer, là, il y a 24 heures, j'ai cassé mon téléphone, il ne marchait plus. J'étais comme un fou. parce que tout est dedans. Et j'attendais des appels, on devient dingue, c'est, je suis affolé. Il y a un vrai sujet, même pour Anne Goscinny, pour l'auteur que vous êtes, c'est un vrai sujet de roman, un vrai sujet de film, comique ou pas, mais on, c'est un, oui, vous vouliez dire...
Il y a une maladie, oui, ça a un nom.
Ah bon?
Oui,
ça s'appelle... Mais on la soigne au Louvre, la maladie.
C'est quoi la maladie, Achikmin?
Ça s'appelle nomophobie.
Nomophobie?
Ou nomobo...
Non, les bofs, c'est autre chose.
Non, c'est autre chose, ouais. Donc c'est nomobalphonephobie, ouais.
Alors,
c'est une nouvelle maladie.
Une vraie maladie, ouais.
Voilà.
Vous étiez au courant?
Non, mais c'est bien.
Edouard Alquier, vous saviez?
Voilà, non, c'est parfait. On en a
ça va dans votre sens.
C'est nickel. Effectivement, une des solutions pour les entreprises, c'était effectivement de casser le portable de son salarié.
Donc, ça, le jeter par la fenêtre.
De
l'écraser sous un talon.
Donc, déjà, merci de nous avoir invités. On est la seule entreprise non parisienne. Donc, c'est bien. Donc, on arrive de Bayonne. Ça nous permet de passer le week-end à Paris. C'est parfait. On va aller visiter le Louvre. Ça va être grandiose.
Avec vos geeks.
Voilà, avec les geeks et les nergues.
Nerds.
Donc, nous, on a créé cette entreprise il y a quelques mois. J'ai confondu avec un autre Edouard Mongrand. Ouais. C'est, avant d'être une entreprise, c'est aussi une histoire de copains, parce qu'on est deux copains depuis 35 ans à Bayonne. J'en ai 40 et lui aussi. Ouais. On est parti d'un constat, celui dont tout le monde parle là aujourd'hui, c'est que le smartphone, c'est un outil génial. Il y en a de plus en plus, il y en a 6 fois plus depuis 2008. On est connecté de plus en plus facilement, c'est de moins en moins cher et maintenant il y a la 4G, je crois que même il y aura la 5G bientôt. Oui. Donc c'est un outil génial, professionnellement c'est top.
On est hyper connecté.
On est hyper connecté H24, qui n'a jamais reçu de mail à minuit et demi, à 2h du matin, enfin qu'importe. Si on bosse à l'étranger, enfin avec l'étranger...
Peut qu'on soit sur des réseaux comme WhatsApp avec des copains, avec des
groupes. Ouais, après j'ai 40 ans. Je suis pas ce problème-là, mais effectivement... Partant de ce constat-là, on s'est rendu compte que pour les salariés, donc c'est positif pour les salariés parce que ça permet de, notamment par exemple, de développer le télétravail, de travailler de chez soi. Donc ça, c'est quand même assez excellent.
Oui, il y a de nombreux avantages au quotidien. Vous le dites aux entreprises, notamment de pouvoir joindre facilement, rapidement leurs collaborateurs, etc. Mais il y a le revers de la médaille.
En fait, aujourd'hui, comme on est hyper connecté au travail, d'ailleurs à la maison aussi. Pour le salarié, on se retrouve avec du stress, de l'infobésité, c'est un mot qui arrive, en fait, trop d'infos, tu l'info. Infobésité.
Infobésité.
Trop d'infos, tu l'info. Donc, regardez un petit peu les mails de vos collaborateurs, de vos collègues, il y a souvent des centaines, voire des milliers de mails non lus. Ouais. C'est complètement délirant. Puis après, ça amène du stress, ça amène potentiellement du burn-out, on parlait de burn-out. Donc ça c'est pour le salarié, et puis pour l'entreprise elle se retrouve face à de nouvelles problématiques. Il y a l'ancien DRH d'Orange qui a sorti un rapport récemment en disant qu'il fallait peut-être avoir un droit à la déconnexion, donc l'entreprise va se retrouver confrontée à ce problème-là. Il y a des accords cadres qui ont été passés où il y a une obligation de l'employeur de pouvoir déconnecter ses salariés, donc c'est des choses qui se font. Je crois que Volkswagen coupe les serveurs les mails entre 19h et 8h du matin. Mais c'est assez limité. Donc nous, l'objectif, c'est d'apporter. On a inventé un outil qui est assez simple d'utilisation, qui permet à l'entreprise de déconnecter ses salariés quand il faut.
Oui, c'est,
on
n'a
pas dit qu'il
ne
fallait pas être déconnecté pendant la journée, mais,
non, mais c'est très bien vu. Voilà,
on déconnecte quand il faut.
C'est raisonnable. Oui, l'idée, c'est que de plus en plus d'entreprises ont à gérer ce problème-là, qui va le devenir. La difficulté à mettre une barrière entre vie professionnelle et vie personnelle. Mmh. C'est bien ça. En dehors, effectivement, des horaires classiques. Difficile, en effet, de ne pas consulter ses mails le soir, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Denis Bout doit le voir avec ses... dans le placement des cadres qui peuvent pas s'en empêcher de vivre comme ça. À la maison, le week-end, en pleine réunion de famille, au risque d'éprouver un sentiment de culpabilité.
Ce que vous dites, c'est assez franco-français, mais effectivement, de pas répondre à son mail qu'on a de votre collègue qui vous l'a envoyé à 23h, vous l'envoyez à 23h30, ça fait classe. Et ça, on a l'impression qu'on va monter dans les grades parce qu'on répond tard à ses mails. Donc, aujourd'hui, effectivement, on doit pouvoir se prendre en main et se déconnecter complètement.
Il y a des limites, quoi. Il y a des limites à tout. Voilà, l'hyperconnexion, il faut le combattre.
Il faut la combattre. Donc, soit on le fait par soi-même. Bon, concrètement, ça peut se faire. Soit l'entreprise peut proposer une solution à ses salariés en disant, aujourd'hui, on met en place une politique.
Allô, Bayonne. Ouais. Et c'est là que vous arrivez.
Voilà. Non, mais c'est assez simple. C'est du bon sens. C'est-à-dire que le salarié, à partir du moment où il rentre chez lui, il faut le déconnecter. Donc, vous lui installez l'application sur son téléphone. Et à partir de 18h le soir jusqu'à 9h le matin, il peut pas consulter ses mails ou
vous bâillonnez le téléphone.
On bâillonne le téléphone. Alors,
mais
ça, c'est beau, ça.
Vous trouvez pas que c'est une infantilisation de l'individu que de que de l'obliger à se déconnecter, qu'il n'est pas assez grand, l'individu, pour dire, voilà, là, je suis à table avec ma femme, mes enfants, mon mari, mes enfants, ouais. Et je regarde une série à la télé où je lis le dernier livre d'Anne Goscinny, et je ne me connecte pas systématiquement pour aller chercher le mail.
Je suis d'accord, on peut être...
C'est une infantilisation de l'individu.
Ouais, oui,
et c'est aussi, je trouve, une espèce de paroxysme de la civilisation. Dur, après avoir connecté tout le monde, on déconnecte tout le monde. Je trouve ça fou, moi.
Allô, docteur.
Nous, c'est un constat.
Non, mais après, c'est pas responsable.
L'entreprise, disons que elle a un rôle de, enfin, elle doit former ses collaborateurs à l'utilisation de ce genre d'outils, ça c'est clair. Bon, sachant qu'on le constate aussi à la maison, l'hyperconnectivité. Mais... Vous avez des enfants de 15 ans, je pense, potentiellement.
Ils ont 15 et 13 ans, mais mes enfants, et je peux vous dire que les portables à table, mais ça, je peux les exploser, moi.
Hein.
C'est insupportable.
Ah, complètement. J'ai des enfants aussi.
C'est ce que dit justement.
Mais ça s'applique aussi. Alors là, c'est dans le cas de l'émission, c'est plutôt l'entreprise, mais ça s'applique aussi aux enfants. C'est comment arriver à maîtriser le portable de ses enfants.
Alors, Anne Goscinny, c'est effectivement ce que dit notre ami Edouard Alquier. Mais alors, on veut savoir, justement, vous avez mis au point une méthode. C'est quoi tester Coldor? Comment peut-on tester? D'abord, ça correspond à quoi? C'est quoi Coldor? Votre proposition.
C'est un outil, c'est assez simple. Vous téléchargez l'application.
Ah, c'est ça, c'est une application.
C'est une application que vous téléchargez sur votre portable. Et après, le gestionnaire de la flotte, donc l'entreprise, se connecte sur Internet depuis son PC et paramètre le téléphone de l'utilisateur. Donc, il décide de mettre en place. Si l'entreprise a une charte de comportement qu'il a décidé de mettre en place avec ses salariés,
ouais.
Bah, il le dimensionne. Donc, on peut décider, par exemple, que le soir de 18h à 9h, il n'y a plus de mail, que. Souvent les téléphones pro, c'est aussi les téléphones perso.
Ouais.
Donc on peut dire, tous les téléphones, vous avez plus le droit d'appeler ou on n'a plus le droit de réceptionner des appels liés aux professionnels. Il suffit de rentrer les numéros de téléphone. Donc ça permet vraiment d'adapter l'utilisation du smartphone à l'entreprise.
Mais ça n'exclut pas que le salarié en question peut recevoir des mails perso.
C'est ce que vous dites.
Ah, bien sûr que non. Bien sûr que oui. On parle vraiment de la logique entrepreneuriale par rapport à la relation entre le smartphone et le salarié.
C'est l'entreprise qui décide
de mettre en application sa charte de fonctionnement. Alors elle est pas obligée d'être ultra infantilisante. Elle peut expliquer aux équipes, etc. Mais surtout, laisser des latitudes.
Surtout, on a noté, Monsieur Ricard, on a noté que le collaborateur qui a, comme vous le dites très justement, souvent un seul téléphone fourni par l'entreprise, mais il s'en sert aussi pour
c'est souvent le cas.
Et ben, il va pouvoir continuer à utiliser cet appareil à titre personnel.
Hein, c'est évident, les numéros d'appel d'urgence, etc. D'autres questions
dans le studio des autres invités. D'abord vous, Dimitri, et ensuite Denis Bout.
J'ai une petite exception à suggérer à cette application-là. Après la visualisation du film Her, où avec la voix de Scarlett Johansson, donc elle contactait le personnage principal et lui dictait les mails les plus importants. Mmh. Est-ce qu'on peut faire cette exception-là?
J'ai pas vu le film.
Bon, déjà, on n'a pas vu le film, c'est embêtant. Mais...
Ah, elle lisait en fait toute la correspondance professionnelle du acteur principal.
Ouais.
Et c'est elle qui contactait et disait, bon, ça, c'est pas très important. Mais en revanche, ce mail-là, je pense que t'as intérêt à le lire.
Ah oui, j'ai compris. Donc, imaginons un cas de figure, quoi.
Oui.
Où l'entreprise pourrait
Non, nous, on n'est absolument pas intrusif dans le téléphone portable du collaborateur.
Denis Bouff, question.
Moi, j'ai une réaction qui est, ça peut aussi protéger le salarié de l'intrusion de...
Vous avez raison.
C'est supérieur, parce que moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens me disant « Je ne supporte plus que mon patron qui est célibataire et qui s'emmerde le week-end m'envoie des mails et je suis censé devoir lui répondre dans l'heure. Sinon, je me fais engueuler lundi matin. »
Les patrons ou même les collaborateurs à même niveau, un mec qui est un peu carriériste, qui envoie des mails à pas d'heure. Et donc, à partir du moment où on met des règles standards pour tout le monde,
c'est vrai que le danger est là aussi, vous avez raison.
Ça vient de l'entreprise, mais aussi des personnes indigentes. Alors, effectivement, je reviens sur l'infantilisation. Il y a une éducation à faire là-dedans, mais c'est ultra récent. L'explosion du smartphone, ça a même pas 5 ans. Il y a des générations qui sont plongées dedans depuis leur plus jeune âge.
Depuis 5 ans.
Ouais. Voilà, mais pour la génération comme la mienne, c'est tout nouveau. Moi, j'ai eu mon premier portable à 25 ans et j'ai commencé à checker mes mails sur mon smartphone il y a 4 ans.
Mmh. Oui, on oublie que tout ça est très récent
quand même. Ultra récent. Donc l'apprentissage, ça apprendra aussi tant. Donc c'est un outil d'aide aussi à l'apprentissage.
Alors, vous vendez ça sous forme de
Oui, après, ça, aussi. Voilà, après l'entreprise se connecte, on lui vend un forfait.
Ça y est, vous avez démarré la commercialisation.
C'est récent, on est beaucoup plus récent que les gens autour de la table. On a le produit est sorti il y a 15 jours.
Ah bah oui.
On
vous souhaite bonne chance.
Merci, hein. Merci.
Voilà, on est à la fin de l'émission. Je voudrais que chacun donne une adresse mail. Je commence par vous, Dimitri Achikmin pour FWA.
Oui.
FWA.com ou
.eu.
.eu, ouais, j'ai bien fait de poser la question.
Union européenne, ouais.
FWA.eu pour ceux qui veulent répondre à votre offre d'emploi de développeur. Pour vous, Denis Bout.
www.avenirdirigeant avec un sans S au, à la
fin. Avenir au singulier.
Avenir et dirigeant au singulier. .com.
Pour vous, Edouard Alquier, pour votre fameux pack pour le téléphone.
Colder.
On vous envoie SMS, mais sinon.
Ouais. Oui, allez-y. Donc colder.net, donc CA2L D2OR.net.
Voilà. Et enfin, bon, vous n'allez pas donner votre mail, Anne Goscinny.
Non, mais.
On donne le titre du livre.
Peut-être le titre du livre et l'adresse de toutes les bonnes librairies en France.
Le sommeil le plus doux chez Grasset. On était ravis de vous recevoir
merci
également
beaucoup.
Comme invité témoin. Vous avez bien réagi. Barrière voilà. Goscinny. Anne Barrière Goscinny. Okay. Merci à Michel, notre réalisateur. Bon week-end sur BFM Business. Bon week-end tout court. Et à samedi prochain.